le chef multimilliardaire du Hamas est mort. Il en va de même pour l'un des principaux commandants militaires du Hezbollah, un homme dont la tête était mise à prix pour 5 millions de dollars par les États-Unis. C'est une grande victoire pour Israël et un énorme revers pour l'Iran, mais est-ce que cela signifie la Troisième Guerre mondiale? Pendant ce temps, les amis de l'Iran au Venezuela restent au pouvoir après avoir truqué les élections. Les migrants sont toujours les bienvenus aux États-Unis, tandis qu'ils provoquent des émeutes au Royaume-Uni. Et la Russie forme ses troupes à utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille. Nous vous présentons tout cela et bien plus encore, aujourd'hui sur Trumpet World. Le nouveau président iranien a été investi cette semaine, ce qui signifie que de nombreux clients terroristes iraniens se sont rendus à Téhéran pour se réunir, s'amuser, chanter mort à l'Amérique, et ainsi de suite. Mais pour Israël, l'investiture a été l'occasion d'éliminer une figure assez notable sur sa liste de cibles. Pour en apprendre plus, nous allons inviter notre correspondant qui s'occupe du Moyen-Orient, Mihailo Zekic. Bienvenue Mihailo.
Merci de m'avoir invité. Bon, parlons d'Ismaïl Haniyeh, le président du Politburo du Hamas, essentiellement leur version d'un chef d'État. Il a été assassiné dans une chambre d'hôtel à Téhéran le matin du 31 juillet, en compagnie d'un de ses gardes du corps. Il était présent, comme vous l'avez mentionné, pour l'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Il n'était pas le seul représentant d'un groupe terroriste étranger, mais c'est lui qui a été ciblé. Cela a choqué beaucoup de monde, y compris les Iraniens. Ils ont même organisé ses funérailles en Iran, au lieu de le transporter en Cisjordanie, ce qui montre à quel point ils appréciaient son amitié et bien sûr son parrainage du Hamas. Reste à voir dans quelle mesure cela aura un impact sur l'influence du Hamas sur le terrain. Les spéculations vont bon train quant au contrôle qu'il exerçait sur Yahya Sinwar et tous les autres terroristes de la bande de Gaza. Mais pour le moment, le Hamas se retrouve essentiellement sans tête.
C'est une réussite notable pour Israël. Ou bien on suppose qu'Israël est derrière tout ça. Comme vous l'avez dit, Israël n'a pas revendiqué cette action, bien qu'il ne le fasse pas dans chaque cas. Mais supposons que ce soit le cas. C'est une réussite des services de renseignement israéliens, car ils ont éliminé une figure de haut rang. Si j'étais chef d'un groupe terroriste, je réfléchirais bien avant de me rendre en Iran.
Tout à fait. Israël n'a pas infiltré l'Iran depuis longtemps. Il y a quelques années, un scientifique nucléaire très célèbre a été tué par des assassins à moto. Israël a donc ses agents en Iran. Mais c'est un assassinat assez remarquable, car il était de haut niveau, recherché depuis si longtemps, et beaucoup apprécié par l'ayatollah lui-même. Haniyeh et certains de ses acolytes vivaient depuis longtemps au Qatar. Le Qatar n'est pas le pays le plus amical à l'égard d'Israël, mais Israël a promis aux dirigeants de ce pays qu'il n'assassinerait aucune de ses personnalités tant qu'elle se trouverait sur le sol qatari. Le problème, c'est que Téhéran n'est pas sur le sol qatari.
Je pense que maintenant, l'on se demande que fera l'Iran. Il y a une bonne leçon à tirer ici concernant la diplomatie internationale. L'Iran est agressif, il est très belliqueux. Il provoque tout le monde chaque fois qu'il peut. Mais il suffit de lui tenir tête. Et si vous lui tenez tête, souvent l'Iran recule. Nous avons vu cela lorsque Donald Trump a tué Qassem Soleimani. Après, l'Iran a cessé ses provocations pendant presque tout le reste de son mandat. Et cela me rappelle cette déclaration du rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury. Les superpuissances ne peuvent survivre dans ce monde méchant et belliqueux sans la volonté de mener des guerres longues et difficiles. Tel est le monde réel dans lequel nous vivons. Les fantasmes n'y changeront rien. Si vous avez la volonté d'affronter une nation comme l'Iran de la manière dont Israël le fait, cela fonctionne souvent. Sous la direction de Netanyahou, Israël l'a démontré dans une certaine mesure. En s'opposant à l'Iran, en se défendant, on obtient des résultats. Voilà pourquoi tant de gens veulent se débarrasser de lui, car il montre au monde comment s'opposer au mal. Je pense que son exemple est assez condamnant pour les États-Unis. Et c'est peut-être encore plus évident dans ce deuxième assassinat auquel vous avez fait allusion, car Haniyeh n'a pas été le seul dirigeant à trouver la mort cette semaine. À Beyrouth, Israël s'en est pris à un haut commandant du Hezbollah, un homme que les États-Unis recherchent depuis des années, offrant même une prime de 5 millions de dollars pour toute information sur sa localisation. Que pouvez-vous nous dire à son sujet, Mihailo ?
Je crois que vous parlez de Fouad Choukr, qui a été assassiné dans la banlieue de Beyrouth. C'est un membre de longue date du Hezbollah. Il combat Israël depuis 1982, c'est-à-dire avant même la création du Hamas. En 1983, il a attaqué une base américaine au Liban lorsque le pays avait sombré dans une crise et beaucoup de forces internationales se trouvaient sur place. Son attaque a fait environ 45 morts, je crois. C'est un initié de longue date du Hezbollah. Il a été qualifié de bras droit du secrétaire général Hassan Nasrallah. Dans un discours prononcé mercredi soir, Benjamin Netanyahou l'a qualifié de chef d'état-major du Hezbollah. Il a été tué en raison d'une attaque terroriste samedi dernier lorsque le Hezbollah a attaqué un terrain de football civil où 12 enfants ont malheureusement trouvé la mort. Il s'agissait d'un quartier druze. Beaucoup de gens aiment présenter la guerre terroriste d'Israël comme une affaire de juifs. Dans le cas présent, il s'agissait d'un groupe arabe dont les enfants, des civils, ont été tués. C'est donc toute la nation qui s'unit. Israël n'est pas seulement juif. Au moment de l'enregistrement, Yoav Galant, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que Mohamed Deif avait été tué le mois dernier. Je suppose que la façon la plus simple de le décrire serait de dire qu'il était le principal commandant du Hamas à Gaza. Là encore, il est mort depuis environ un mois et demi, mais nous venons de l'apprendre aujourd'hui. Cela laisse un vide de leadership énorme à Gaza. Là encore, il reste à voir quel sera l'impact sur le terrain. Mais lentement et sûrement, le Hamas perd un à un ses hauts gradés.
Ce sont de bons points. Avant de passer à autre chose, je pense qu'il vaut la peine de réfléchir à cette attaque contre la communauté druze, où 12 enfants ont perdu la vie, car il s'agit de la plus grande attaque contre des civils depuis le 7 octobre. Et je pense que ce qui ressort de toutes ces histoires, c'est l'échec des grands médias. Cette semaine, nous avons lu les nécrologies typiques qui paraissent chaque fois qu'un islamiste meurt. Par exemple, qualifier un terroriste de religieux austère. Autrement dit, ils ne font pas mention des nombreuses atrocités commises. En ce qui concerne l'attaque contre les druzes, j'ai suivi certains reportages à ce sujet et j'ai été choqué par certains d'entre eux. Par exemple, le Washington Post, en particulier, a titré « Les attaques à Gaza et sur le plateau du Golan » font plus de 40 morts, dont beaucoup d'enfants. Vous lisez ce titre et vous avez l'impression que ce sont les Israéliens qui tuent les enfants, ce qui n'est pas du tout le cas. Tant de gens s'informent en lisant seulement les titres, plutôt qu'en lisant l'article lui-même, alors ils ne se rendent pas compte de la réalité des faits. Et je ne sais pas dans quel paragraphe on retrouve la vérité. Et puis il y a CNN. Cela m'a interpellé aussi parce que j'écris des titres. Nous sommes tous ici des journalistes. Nous essayons tous d'écrire des titres qui attirent les gens, et nous nous efforçons à écrire des titres avec l'air le plus dramatique possible, sans nuire à la vérité. Parfois, on passe beaucoup de temps à écrire un bon titre, mais j'ai l'impression que CNN a essayé d'écrire un titre aussi ennuyeux que possible, comme s'il ne voulait pas que les gens sachent ce qui s'est passé. Voici leur titre. Une vidéo montre la scène d'une attaque à la roquette sur le plateau du Golan contrôlé par Israël. Vraiment ? Juste des séquences vidéo? C'est lunaire. Alors cela pose la question suivante. Pourquoi les grands médias ont-ils tendance à minimiser l'importance de la mort des enfants israéliens alors que la mort d'enfants palestiniens fait la une? Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez assez régulièrement des enfants qui ont été tués en Syrie ou dans d'autres conflits qui n'ont rien à voir avec Israël, dépeints comme s'ils étaient victimes d'Israël. Je pense que cela montre clairement qu'il s'agit d'un parti pris anti-Israël. Mais la grande question qui préoccupe tout le monde, surtout à en juger par la couverture médiatique de cette semaine, c'est si nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Ou au moins est-ce que nous sommes sur le point d'assister à une confrontation directe, une guerre directe entre l'Iran et Israël ?
Eh bien, nous devrons attendre et voir, mais je crois que c'est très peu probable. En avril, l'Iran a envoyé son barrage de drones qui ont tous été abattus. L'Iran a essentiellement dit « Bon, nous nous sommes vengés et nous allons maintenant passer à autre chose ». Je crois que ces évolutions iront dans le même sens, et à en juger par la façon dont Israël a déjà riposté en attaquant l'Iran, le Hezbollah et certains de ses autres groupes, je pense que cela envoie un message assez clair qui fait peur à beaucoup de gens. Je fais allusion à ce que vous avez mentionné plus tôt, à savoir que le chef du Hamas peut se rendre à Téhéran, le cœur de la bête, le centre nerveux du mal, et quand même se faire tuer. Ou le numéro 2 du Hezbollah, ou tous ces autres types. Tous les chefs terroristes ont probablement compris le message, à savoir que si Israël veut vraiment tuer quelqu'un, il peut le faire en un clin d'œil. C'est probablement ce que pense Hassan Nasrallah. C'est probablement ce que pense Khalid Mashal, qui sera très probablement le successeur de Haniyeh au Qatar. C'est peut-être même ce que pense l'ayatollah s'il lui arrive de voyager à l'étranger. Je ne sais pas si Israël aura l'audace de tenter cela, mais c'est une possibilité. Et comme vous l'avez dit, une fois que l'on tient tête à l'Iran, ce régime commence à voir les choses de façon plus réaliste et il commence à être freiné.
C'est vrai. Et lorsqu'on a une compréhension biblique de la nature humaine, de la façon dont il faut affronter le mal, car l'Iran est en effet un État voyou qui soutient le terrorisme, alors dans ce cas, faire preuve de force ne mène pas toujours à la guerre. Cela oblige l'Iran de se reculer. En revanche, faire preuve de faiblesse rend l'Iran plus audacieux. Mais nous ne sommes pas non plus en train de dire que la paix s'installe au Moyen-Orient. Nous ne disons pas de cesser d'observer le Moyen-Orient. Au contraire, nous disons qu'il faut l'examiner de très près, et nous sommes attentifs à certaines choses très spécifiques.
L'une des choses les plus importantes que nous allons voir sera une crise concernant Jérusalem. C'est inhabituel, car la plupart des crises israéliennes jusqu'à présent ont tourné autour de Gaza ou du plateau de Golan. Jérusalem elle-même a échappé à la conscience de beaucoup de gens. Mais c'est là que réside le principal enjeu. C'est la raison pour laquelle tous ces groupes islamistes font la guerre à Israël. Et il y a une prophétie dans le livre de Zacharie qui nous dit pourquoi nous devrions surveiller Jérusalem, au moins dans l'immédiat, pour le catalyseur de cette crise, et pour bien d'autres raisons encore. On lit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » C'est ce que disent les versets 1 et 2 de Zacharie 14. Voici un extrait d'une brochure par notre rédacteur en chef, M. Gérald Fleury. Il l'a écrit il y a quelque temps, mais cela semble de plus en plus pertinent. La brochure s'intitule « Jérusalem, selon la prophétie ». Il a écrit, je cite, « Le Christ a prophétisé qu'il rassemblerait toutes les nations pour qu'elles se battent contre lui à Jérusalem. » Ensuite, il a fait ce qui semble une étrange déclaration. La moitié de Jérusalem doit être emmenée en captivité. Remarquez la précision de cette prophétie. Jérusalem Est, la moitié de la ville, sera conquise par les Palestiniens. Un peu plus loin, il dit « Compte tenu de la violence qui se poursuit à Jérusalem aujourd'hui et de l'incapacité absolue des parties concernées à régler la situation par des moyens pacifiques, nous voyons facilement comment la moitié de Jérusalem sera en captivité dans un très proche avenir. La violence actuelle est l'embryon d'une violence qui deviendra beaucoup plus grande. » Fin de citation. Et maintenant, sur la base de cette prophétie et l'analyse de M. Fleury, l'une des tendances que nous surveillons est l'aggravation des violences dans le monde politique palestinien. Nous nous attendons à ce que certains de ces groupes prennent pied en Cisjordanie, où ils seront mieux en mesure de s'emparer de Jérusalem qu'ils ne le seront à Gaza ou même au Liban. Pour l'instant, surtout en Cisjordanie, la politique palestinienne est si divisée, si faible, qu'elle est incapable de mener ce genre d'assaut coordonné nécessaire pour annexer la ville. Et la faction qui contrôle la majeure partie de la Cisjordanie, le Fatah, est à ce stade trop préoccupée par sa propre survie. Le Fatah est prêt à travailler avec Israël pour y parvenir, plutôt que d'attaquer Jérusalem, par exemple. Nous nous attendons à ce qu'un groupe plus radical, comme le Hamas, prenne pied dans la Cisjordanie à un moment donné. Il y a actuellement plusieurs vides de leadership en ce moment, qui doivent être remplis, qui nécessitent de nouveaux dirigeants pour prendre des décisions, alors nous pourrions très bien voir quelqu'un remplir le poste de Haniyeh ou certains des autres postes actuellement vides. Et ces nouveaux dirigeants pourraient être beaucoup plus agressifs, beaucoup plus disposés à prendre des risques, beaucoup plus ambitieux. Ou bien tout cela pourrait signifier que le Hamas va disparaître au profit d'un autre groupe. Il y a par exemple le djihad islamique palestinien que nous venons de mentionner, qui pourrait être en mesure de combler le vide et de commencer à peser un peu plus lourd dans la balance. Cela reste à voir. Mais il y a beaucoup de façons dont cela pourrait se dérouler.
Merci, c'est un bon rappel. Nous nous attendons à ce que le président Donald Trump revienne à la Maison-Blanche et qu'il en résulte un certain redressement et un soulagement pour Israël et le Moyen-Orient. Les choses pourraient s'améliorer pour eux pendant un certain temps. Et je pense qu'en partie, la force dont M. Netanyahou fait preuve face à l'Iran pourrait aussi aider. Ce que nous voyons en ce moment pourrait bien ouvrir la voie à cela. Mais il est essentiel de continuer à surveiller ce qui se passe à Jérusalem. Si ce soulagement arrive, il ne sera que temporaire. Il y a encore des évolutions très importantes à venir. Bon, passons de l'Iran à ce qui est, à bien des égards, un avant-poste iranien dans l'arrière-cour des États-Unis. Le président Nicolas Maduro a remporté les élections vénézuéliennes au cours du week-end. Les chiffres officiels l'ont attribué 51% des voix. Et bien sûr, le Venezuela est un pays communiste. Il ne s'agit donc pas d'élections libres ou équitables. Maduro est connu pour emprisonner et persécuter ses opposants politiques. Ses adversaires les plus puissants n'ont pas pu se présenter. Les observateurs internationaux ont été interdits, y compris un avion rempli de 4 anciens présidents latino-américains qui avaient l'intention de s'assurer que les élections soient libres et équitables. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. Malgré toutes ces tricheries, les sondages à la sortie des urnes ont indiqué une victoire écrasante pour l'opposition. Pourtant, il semble que l'élection ait été truquée et que Maduro ait réussi à s'accrocher au pouvoir. Le Venezuela est essentiellement un avant-poste ennemi dangereusement proche des États-Unis. La victoire de Maduro va faire en sorte que cela reste ainsi. J'aimerais donc accueillir nos invités qui nous rejoignent depuis les États-Unis pour cette discussion, Andrew Miller et Jérémy Jacques. Alors, Andrew, il s'agit d'une affaire qui implique très clairement et directement les États-Unis, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Je dirais même que l'on pourrait rejeter la faute de ce trucage des élections vénézuéliens sur l'administration Obama et l'administration Biden. Pour résumer, lorsque Donald Trump était président, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déclaré catégoriquement que le Venezuela, Cuba et le Nicaragua constituaient ce qu'il appelait le « troïka » de la tyrannie. Ces trois nations communistes d'Amérique latine travaillent ensemble contre les États-Unis. Alors, ce que Trump a fait pour essayer de défendre les États-Unis contre ces trois pays, c'est qu'il a imposé des sanctions très sévères à chacun d'entre eux, surtout contre Cuba et le Venezuela. Le Cuba est un pays communiste depuis les années 1950, et sans le pétrole vénézuélien, il se serait effondré il y a des années. Il y a donc un accord entre les Cubains et les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens donnent du pétrole aux Cubains. Et les Cubains, à leur tour, fournissent des agents de sécurité, des espions et d'autres agents qui soutiennent le régime de Maduro. Parce que Maduro est si impopulaire auprès de son propre peuple, il a besoin d'embaucher des agents de sécurité cubains pour protéger sa vie et l'aider à garder le contrôle sur les rênes du pouvoir. Sans ces Cubains, il aurait probablement été chassé du pouvoir il y a longtemps. La stratégie de Trump semblait donc fonctionner. Sauf que lorsque Trump a quitté la Maison-Blanche, Joe Biden, sous la direction et avec le soutien de Barack Obama, a mis fin à ses sanctions. Il a allégé les sanctions contre le Venezuela. Il a laissé se poursuivre les échanges entre Cuba et le Venezuela, où ils échangent du pétrole contre des agents de sécurité. Et cela a renforcé suffisamment son régime pour qu'il puisse encore utiliser ses experts cubains pour l'aider à maintenir son gouvernement au pouvoir, même lorsque le peuple ne l'aime pas. Et ils n'ont pas non plus été très reconnaissants à l'administration Biden. La criminalité au Venezuela a beaucoup baissé, et Trump a même fait l'éloge de Maduro. Il a dit que c'est un dirigeant intelligent parce qu'il a déporté de nombreux gangs vénézuéliens et les a laissés traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Ainsi, le taux de criminalité au Venezuela a considérablement baissé parce que les délinquants se retrouvent maintenant ici, aux États-Unis. L'administration Biden a donc laissé faire en supprimant ces sanctions.
Le soutien au Venezuela est une politique de longue date de l'ère Obama. Je pense que l'une des choses les plus étonnantes que la plupart des gens ignorent, c'est l'opération Cassandra. Vous pouvez vous renseigner sur l'opération Cassandra. Cela a fait l'objet de reportages dans les grands journaux, mais très peu de gens en ont parlé. Je pense que la plupart des gens l'ignorent. Il s'agit pourtant d'une chose absolument stupéfiante. Pendant un certain temps, grâce à une série de transactions de drogue et d'autres choses de ce genre entre le Venezuela et le Hezbollah, et en collaboration avec les cartels de la drogue, 200 millions de dollars étaient en déposés chaque mois sur un compte bancaire libanais. On l'a qualifié de plus grand programme de soutien matériel aux opérations terroristes de l'histoire du monde. Le Venezuela est donc un élément clé du réseau terroriste iranien. Et c'est Barack Obama qui a essentiellement mis fin à l'opération Cassandra. Il essayait de conclure l'accord avec l'Iran. il essayait de permettre à l'Iran d'agir. Il a mis fin à cette enquête menée par l'Agence de la lutte contre la drogue. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour contrecarrer et enfin mettre un terme à cette enquête. Il s'agit donc d'un danger majeur pour les États-Unis. Je vais maintenant m'adresser encore à Mihailo, parce qu'il y a des liens profonds entre l'Iran et le Venezuela, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Cela remonte jusqu'à Hugo Chavez, bien sûr, le mentor de Maduro, qui est devenu président en 1999. Tout ce que vous venez de mentionner sur le Venezuela est vrai. Le Venezuela finance même le Hezbollah. Il finance la guerre dont nous avons parlé tout à l'heure, mais croyez-le ou non, le Hezbollah s'entraîne au Venezuela. Dans certains endroits, y compris une île particulière là-bas, qui a une grande communauté d'expatriés libanais, vous pouvez trouver des camps de formation paramilitaires du Hezbollah, là-bas, en Amérique du Sud, de l'autre côté du monde, par rapport au Moyen-Orient. Et l'année dernière, je crois, l'Iran a envoyé un navire autour du monde pour projeter sa puissance. L'un des ports d'escale était le Venezuela. L'Iran est donc en train de transformer le Venezuela en une sorte de colonie, en une colonie iranienne en Amérique du Sud, ce qui est lié aux réfugiés et aux migrants dont vous parliez. Si le Hezbollah, l'Iran et tous leurs dirigeants sont si profondément liés au Venezuela, et si le Venezuela est l'une des principales sources de ces migrants, il n'est pas nécessaire de trop réfléchir pour conclure que beaucoup de ces terroristes du Moyen-Orient entrent aux États-Unis en passant par le Venezuela, le Nicaragua, Cuba et les autres pays que vous avez mentionnés.
Et c'est encore pire. Je vais maintenant faire intervenir Jérémy dans la discussion lui aussi, parce que le Venezuela entretient des liens étroits, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec la Russie, la Chine et avec d'autres pays asiatiques.
C'est tout à fait exact. La Russie et la Chine sont en grande partie responsables de l'échec des efforts américains pour isoler le Venezuela. La Russie et la Chine expliquent en grande partie pourquoi Maduro reste au pouvoir année après année, opprimant son peuple et transformant son pays en un désastre socialiste. La Russie et la Chine sont particulièrement proches du Venezuela depuis que Chavez est arrivé au pouvoir en 1989 et a commencé ses efforts à transformer le pays en une utopie communiste. La Russie et la Chine sont aujourd'hui les principaux créanciers du Venezuela. La Chine est de loin son premier partenaire commercial, et le Venezuela est le partenaire commercial et l'allié militaire le plus important de la Russie dans toute l'Amérique latine, plus important encore pour la Russie que des nations comme Cuba et le Nicaragua, qu'Andrew a mentionné tout à l'heure. Tout cela repose sur une haine commune de l'Amérique et un désir commun de mettre fin à l'ère de la domination mondiale de l'Amérique. La Russie et la Chine soutiendront presque tout régime sur Terre qui partage leur désir de mettre un terme à la domination américaine. Elles ont donc beaucoup investi au fil des ans au Venezuela et ont contribué à en faire essentiellement, comme vous l'avez dit, Monsieur Palmer, un avant-poste socialiste ou communiste géographiquement proche des États-Unis.
Et c'est quelque chose d'incroyablement dangereux. Et je pense que nous pourrons y revenir un peu plus en détail. Alors, Andrew, votre histoire principale est liée à certains des problèmes que nous voyons au Venezuela, en particulier les afflux des migrants, n'est-ce pas ?
C'est ça. L'histoire principale, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Joe Biden s'est désisté, et sa vice-présidente, Kamala Harris, se présentera aux élections comme candidate officielle des démocrates. Le fait qu'elle se présente aux élections a beaucoup révélé concernant la frontière. Les médias essaient de nous jouer un tour de passe-passe orwellien en ce moment. Très peu de temps après l'entrée en fonction de Joe Biden, il a chargé sa vice-présidente, Kamala Harris, de s'occuper des questions liées à la frontière. Il ne s'agit pas d'un poste constitutionnel officiel. Ça veut juste dire que d'habitude, le vice-président n'a pas grand-chose à faire, outre le fait de voter en cas d'égalité des voix au Sénat. Le vice-président aurait donc du temps à consacrer à des projets spéciaux. Le projet spécial de Kamala Harris était donc de sécuriser la frontière. Alors, pendant longtemps, Harris était le visage public des efforts pour sécuriser la frontière sous l'administration Biden. Et elle a brillé par son absence. Comme je l'ai déjà dit, l'inflation et l'immigration sont les deux sujets qui préoccupent le plus les Américains. Le fait que Kamala Harris se présente à l'élection présidentielle n'est pas une bonne stratégie électorale. C'est une évolution très favorable à Donald Trump, car il peut diffuser des publicités sur l'immigration qui condamnent Madame Harris. Maintenant, les médias essaient de faire oublier aux gens que Madame Harris était chargée de la frontière. Il est vrai qu'elle n'occupait pas un poste officiel concernant la frontière. Mais Harris s'est vu confier une telle mission par le président. Et certains médias, comme Axios, ont joué un rôle déterminant, en soulignant qu'elle était chargée des frontières. Ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont décidé de s'éloigner de ce sujet et de cesser de faire allusion à cette mission de Madame Harris. C'est une question qui préoccupe énormément les Américains, car depuis le commencement de l'administration Biden et Harris, j'ai vérifié les chiffres hier, environ 8,1 millions de clandestins ont été appréhendés à la frontière sud, et en fait, moins de la moitié d'entre eux sont des Mexicains. On penserait a priori qu'il s'agisse de Mexicains en raison de la proximité de ce pays. Mais en fait, la majorité d'entre eux ne sont pas Mexicains. Ce sont des Vénézuéliens, des Cubains, des Nicaraguayens ou des Guatémaltèques. Il y a, en fait, un certain nombre de Libanais partisans du Hezbollah. Il y a aussi pas mal de Chinois. En fait, comme vous l'avez entendu de la part de M. Zekich et de M. Jacques, des nations du monde entier utilisent le Venezuela comme point d'atterrissage, et ces gens passent ensuite par là pour entrer aux États-Unis. C'est l'administration de Biden et Harris qui a vraiment ouvert la porte à cela. Trump avait une règle très efficace baptisée l'accord, rester au Mexique. Ça veut dire que de temps en temps, une famille opprimée fuyant la violence des cartels de la drogue demande l'asile aux États-Unis, et que les États-Unis, parce qu'ils sont gentils, veulent leur donner l'asile. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui est que 8,1 millions de personnes traversent la frontière. Nous n'avons pas assez de juges pour traiter 8,1 millions de demandes d'asile. Alors ces réfugiés sont mis dans des camps, qui se remplissent très rapidement, et après cela, on leur dit « D'accord, partez dans les États-Unis, mais vous devez promettre de revenir pour votre audience. » Trump a remédié à tout cela avec son accord « Restez au Mexique », qui vous oblige à rester dans un camp de migrants du côté mexicain de la frontière jusqu'à ce qu'un juge américain ait le temps d'entendre votre demande d'asile. Biden et Harris se sont débarrassés de cette mesure dès le début. Les Mexicains, eux, se sont rendus compte que même si des membres de gangs vénézuéliens viennent au Mexique, ce n'est pas un problème car ils veulent passer aux États-Unis. Même cette semaine, la sénatrice Elizabeth Warren a déclaré qu'elle souhaite offrir aux clandestins une voie vers la citoyenneté. Dimanche dernier, elle s'est dite convaincue que si le peuple américain s'exprimait en faveur de Kamala Harris lors des élections, cette dernière travaillerait avec le Congrès pour s'assurer que cette voie vers la citoyenneté soit mise en place. C'est donc très avantageux pour ces clandestins. Ils n'étaient pas obligés de rester au Mexique jusqu'à ce qu'un juge décide qu'ils avaient droit à l'asile. Maintenant, les agents des cartels de la drogue, les espions chinois, les terroristes du Hezbollah et tous les autres peuvent affluer sans être contrôlés. Ils bénéficieront quand même d'une voie vers la citoyenneté américaine si Harris et Warren réussissent.
Et cela soulève la question de savoir pourquoi. Il ne s'agit pas d'une seule personne. C'est toute une organisation qui a décidé d'encourager la migration de masse. Ces gens veulent faire entrer autant de personnes que possible dans le pays. Ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas surpris. Ils savaient que cela se produirait. Je pense que pour gagner du temps sur ce sujet, je dois mentionner vite fait notre programme anglophone, la Trumpet Daily, qui a consacré de nombreux reportages à la crise migratoire aux États-Unis. Voilà, ils m'ont prêté leur tasse. Vous pouvez trouver ce programme sur Rumble. Je vais maintenant parler à nouveau du Venezuela et de tous ces migrants qui arrivent en provenance de l'Amérique latine. Cela se rapporte à une malédiction prophétique très spécifique dans le livre du Deutéronome où Dieu s'adresse à son peuple, aux nations d'Israël, dont la Grande-Bretagne et l'Amérique sont les descendants. Ils correspondent à l'Israël biblique et c'est la clé fondamentale pour comprendre les événements mondiaux. C'est ce que Herbert Armstrong prouve dans son livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Nous serions ravis de vous l'envoyer gratuitement. Mais dans cette prophétie, Dieu dit à Israël que si le peuple désobéit, il sera puni avec certaines malédictions pour les aider à prendre conscience et pour les ramener à Dieu. Et ce que nous voyons à la frontière mexicaine, ce que nous voyons au Venezuela, se rapporte directement à l'une de ces malédictions, n'est-ce pas, Andrew ?
En effet, Deutéronome 28 et son chapitre complémentaire dans Lévitique 26 regorgent de prophéties concernant les malédictions qui s'abattront sur l'Israël du temps de la fin pour le châtier. L'une d'entre elles figure dans Deutéronome 28, verset 52. Il s'agit d'une malédiction qui doit s'abattre sur l'Amérique et le Royaume-Uni. On lit « Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et dans notre livre sur Ézéchiel, le rédacteur en chef, M. Gérald Fleury, fait quelques précisions sur ce passage. Il explique que l'expression « dans toutes tes portes » signifie les goulots d'étranglement de commerce international, les portes maritimes, comme le canal de Panama, le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar. Mais l'expression « hautes et fortes murailles » est distincte. Il s'agit de la sécurité aux frontières, comme le mur frontalier que Donald Trump voulait construire à la frontière mexicaine. Il dit que ces murailles tomberont et que cela permettra aux étrangers et aux criminels du monde entier, pas seulement du Mexique, mais aussi du Guatemala, du Nicaragua, du Venezuela, de Cuba, de la Chine, de la Russie, du Congo et de divers pays du Moyen-Orient, d'entrer sur le territoire américain. Ils peuvent tous venir du monde entier et se rassembler au Venezuela ou au Mexique, puis passer la frontière. L'un des premiers ordres exécutifs de Joe Biden, dès le premier jour de son mandat, a été d'annuler le mur frontalier de Trump, de sorte que cette haute et forte muraille s'est effondrée dans le sens propre du terme. Et aussi, je ne sais pas si c'était le premier après-midi, mais peu de temps après, il a annulé l'accord dans le cadre duquel tout migrant devait rester au Mexique. D'ores et déjà, les migrants n'ont plus besoin d'attendre au Mexique pour être examinés, pour qu'on détermine s'ils sont vraiment des réfugiés opprimés. Au lieu d'être contrôlés, ils peuvent venir directement aux États-Unis et rester, faire du trafic de stupes et d'enfants, faire de la contrefaçon, vendre des voitures d'occasion sur le marché africain. Et cet argent est envoyé au Moyen-Orient afin de tuer des Juifs en Cisjordanie. Tout cela est une malédiction épouvantable pour les États-Unis. La nation est en état de siège, car ses hautes et fortes murailles sont tombées. Et ce ne sont même pas ces délinquants venus du monde entier qui ont abattu les murailles. C'est un régime américain très radical qu'il a fait lui-même, afin que tous ces gens affluent, et je dis ceci de mémoire, au rythme d'environ 6 000 par jour.
C'est vrai, nous assistons à une réalisation spectaculaire de cette prophétie. Et puis, il y a d'autres prophéties qui ajoutent de plus de détails. D'autres prophètes ont écrit plus tard et ont ajouté leurs avertissements à ces bénédictions et malédictions que Dieu nous a transmis à travers Moïse. Je pense que nous voyons certaines de ces prophéties se réaliser au Royaume-Uni. Le livre d'Osée s'adresse spécifiquement à Éphraïm, qui, dans la prophétie biblique, fait référence à la Grande-Bretagne. Je pense qu'en principe, tout ce qui y est écrit s'applique également à l'ensemble d'Israël. Ce livre a beaucoup à dire sur comment la migration clandestine est une malédiction et comment un échec en matière d'intégration et la présence d'un grand nombre d'étrangers dans un pays peut causer des problèmes. Nous voyons cela actuellement aux États-Unis. Ça fait la une. Un immigré de deuxième génération, né au Royaume-Uni mais dont les deux parents étaient originaires du Rwanda, s'est livré à une attaque au couteau dans un cours de danse à Southport, près de Liverpool, et a tué 3 enfants. Le 3e était dans un état critique et est décédé par la suite. D'autres enfants ont été très gravement blessés. Cela a entraîné des émeutes et beaucoup d'agitation. Je pense que la journaliste anglaise Melanie Phillips a publié un très bon article à ce sujet, dans lequel elle explique que beaucoup d'Anglais ont l'impression d'avoir du mal à connaître la vérité sur ces meurtres à l'arme blanche et sur les émeutes, parce qu'ils sont habitués à ce que leur gouvernement leur mente et leur cache les faits sur la crise de migrants. Il y a eu des émeutes la nuit dernière. Les gens ont renversé des voitures de police et ont fait d'autres choses de ce genre. La tension monte en raison du grand nombre de migrants qui arrivent dans le pays, tandis que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Selon le livre d'Osée, Éphraïm est opprimé et brisé, et il commet des erreurs, il prend des décisions insensées. Cela dit également que Éphraïm se mêle avec les peuples, donc parmi les nations, parmi les étrangers. Il y a beaucoup de peuples mêlés ensemble. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est-à-dire que la nation a l'air bon en surface, mais est brûlée et creux à l'intérieur. Les choses semblent en règle, mais en fait la société est en train de s'effondrer. Ce sont là des prophéties dramatiques qui s'accomplissent au Royaume-Uni et en Amérique. Nous avons beaucoup parlé de ce sujet dans notre numéro d'avril. Sur la première page de couverture, on parle de invasion. Il y est question de ce qui se passe au Royaume-Uni et aux États-Unis. On y parle aussi. Du Canada. Les chiffres provenant du Canada sont étonnants. De mémoire, je pense qu'il s'agit d'environ un demi-million de migrants par an, ce qui, pour une population d'environ 30 ou 40 millions d'habitants, représente une migration massive. C'est le cas en Australie aussi. C'est le cas dans tous ces pays. Ce numéro se penche sur les raisons de ces migrations et sur ce qui se passe dans ces pays. Mais compte tenu de ce que nous avons dit sur le Venezuela, j'aimerais également évoquer un dernier article par deux de nos écrivains, Andrew Miller et Jérémy Jacques. Ils ont publié cet excellent article en 2019, intitulé « Se préparer à prendre d'assaut le château de l'Amérique ». Cela explique la prophétie, mais aussi la géopolitique. Et à mon avis, les gens ne reconnaissent généralement pas assez cette réalité. Si les gens écoutaient les experts en géopolitique, les analystes qui s'y connaissent vraiment en histoire et en géographie, je pense qu'ils auraient une vision beaucoup plus réaliste des relations internationales et de la position de leur nation par rapport au monde, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou quelque nation que ce soit. Ces experts ne disposent évidemment pas des prévisions et de l'espoir que la Bible peut fournir. Mais ils sont ancrés dans la réalité lorsqu'ils s'y connaissent vraiment en histoire et en géographie, ce qui, je pense, n'est pas le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et ces analystes parlent souvent de pourquoi Washington devrait se préoccuper de ce qui se passe au Venezuela et à Cuba. Si vous permettez à des nations étrangères de prendre pied dans ces pays, elles risquent de couper l'Amérique du commerce mondial, car il s'agit de voies commerciales cruciales. Et nous vivons dans une sorte d'irréalité où les nations ne se voient d'or presque jamais coupées du commerce. Ou bien, si cela se passe, c'est seulement dans le tiers-monde ou dans des pays en développement qui sont loin des superpuissances. On n'imagine pas qu'un pays riche et développé puisse être coupé du commerce, par exemple les États-Unis ou un pays de l'Europe. Mais il y a un réel danger à ce que des pays étrangers s'installent à proximité du sol américain dans le Venezuela. Il y a un réel danger avec l'arrivée d'un grand nombre de migrants, et aussi en raison d'un éventuel blocus commercial. C'est pourquoi cet article ajoute à cette histoire une autre dimension qui est très importante. Alors, Andrew, avant que vous ne partiez, je dois évoquer les autres évolutions notables qui se sont produites aux États-Unis cette semaine. Pouvez-vous nous mettre au courant des autres actualités importantes provenant des États-Unis ?
Bien sûr. Alors, les deux sujets qui préoccupent le plus les Américains sont l'immigration et l'inflation. Pour eux, alors, cette semaine a été mauvaise. En plus de tous les problèmes d'immigration dont nous venons de parler, la dette nationale américaine a dépassé les 35 000 milliards de dollars cette semaine. Nous avons donc largement dépassé les 100% du produit intérieur brut. De nombreux experts financiers s'inquiètent de la dette nationale. Pourtant, le département du Trésor a estimé qu'il empruntera 1 300 milliards de dollars supplémentaires au cours des 6 prochains mois. La dette américaine ne cesse donc de croître. La masse monétaire augmente, ce qui aura pour effet de diminuer la valeur du dollar sur la scène internationale, ce qui signifie une baisse du pouvoir d'achat. En outre, les gens se posent encore beaucoup de questions sur la tentative d'assassinat de Donald Trump. Nous avons encore des audiences au Congrès à ce sujet. Cette semaine, le directeur adjoint du FBI a été auditionné et a dit qu'il ne pouvait pas en dire trop sur les comptes de Thomas Crooks sur les réseaux sociaux, sauf qu'il semble avoir exprimé des opinions antisémites et anti-immigration. Ensuite, le PDG du réseau social Gab a fait quelque chose d'assez inédit. Il a publié des captures d'écran du compte média de Thomas Crooks, révélant ainsi que le FBI mentait au Congrès. Même Elon Musk a déclaré qu'il semblerait que le FBI avait menti. Pas tous les messages de Thomas Crooks n'ont été révélés, mais d'après ce que nous avons vu, les messages étaient favorables aux actions de Joe Biden en matière d'immigration. Donc, si ce compte appartient vraiment à Thomas Crooks, et le FBI a déclaré que c'est bien le cas, alors nous savons qu'il n'affichait pas un sentiment anti-immigration. Monsieur Crooks soutenait tout ce que Biden avait fait, tous les décrets qu'il avait pris en matière d'immigration. Cela montre que, même si des questions demeurent, L'homme qui a essayé de tuer Donald Trump était un radical de gauche, plutôt favorable à Biden, qui n'aimait évidemment pas la position de Donald Trump sur l'immigration. Par contre, il a affiché un fort soutien aux mesures de Joe Biden en matière d'immigration.
Très bien, nous commençons et nous terminons en parlant de l'immigration. Merci Andrew. La dernière région du monde dont nous devons parler est l'Asie. Alors, Jérémy, pouvez-vous nous mettre au courant des dernières évolutions importantes dans cette partie du monde ?
Bien sûr. Tout d'abord, une brève histoire sur la Chine qui, a priori, laisserait penser que la Chine réduit son soutien à la guerre russe contre l'Ukraine. Mercredi, les Chinois ont imposé des contrôles à l'exportation sur les drones et les pièces détachées de drones dont la Russie dépend beaucoup pour poursuivre sa guerre en Ukraine. Cela peut sembler une bonne nouvelle pour ceux qui réclament l'isolement de la Russie. Mais en réalité, il s'agit d'un geste insignifiant qui ne changera rien. Tout ce que cela signifie, c'est que ces drones chinois seront exportés vers une société écran, probablement au Kazakhstan, qui les expédiera ensuite vers une autre société écran quelque part en Turquie ou en Malaisie. De là, la Russie pourra acheter cet équipement sans problème. Cela ajoute peut-être quelques roubles au prix initial, mais le matériel reste tout aussi accessible à la machine de guerre russe. Il s'agit donc d'une autre situation dans laquelle la Chine tente de se présenter comme neutre dans la guerre, du moins dans une certaine mesure. Elle le fait principalement pour éviter de ruiner ses liens avec l'Europe. Mais la Chine est loin d'être neutre. En réalité, la Chine est bien placée pour porter un coup dévastateur au complexe militaro-industriel russe. Mais au lieu de cela, elle ne cesse de faire tout ce qu'elle peut en coulisses pour alimenter la machine de guerre russe. Puis, parlons de deux petites histoires dans ce que l'on pourrait appeler les dossiers de l'hypocrisie russe. Le général russe chargé de la lutte contre la corruption a été arrêté cette semaine pour avoir accepté des pots de vin. Et aussi, la commissaire de Poutine aux valeurs familiales a quitté son mari cette semaine. Son mari était un prêtre, et elle l'a quitté pour avoir une liaison avec un milliardaire russe. Et puis, comme si ces histoires ne suffisaient pas, un porte-parole du gouvernement russe s'est exprimé mercredi. Et dans un ton cinglant, il a condamné l'assassinat par Israël du chef du Hamas. La Russie a déclaré qu'il s'agissait, je cite, « d'un assassinat politique totalement inacceptable ». Une fois de plus, la Russie, qui empoisonne ou défenestre tous ceux qui s'opposent politiquement au régime de Poutine, essaie de faire la morale à Israël en critiquant cet assassinat politique inacceptable du chef du Hamas. L'hypocrisie de la Russie a donc été très évidente cette semaine.
C'est assurément un deux poids, deux mesures. Alors, nous avons commencé cette émission en parlant de la Troisième Guerre mondiale. Nous avons demandé si le conflit entre Israël et l'Iran pourrait nous y mener. Et maintenant, nous abordons à nouveau ce sujet. Nous allons parler du spectre d'une Troisième Guerre mondiale nucléaire. De quoi s'agit-il alors ?
C'est que la Russie formera ses troupes à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe de la Défense mercredi. Le plan implique les soldats russes des districts militaires du sud et du centre. Ils seront formés à fixer les ogives nucléaires tactiques sur les missiles balistiques russes de type Iskander-M, à charger ces missiles sur divers avions, et enfin les pilotes seront formés à piloter ces avions de guerre lors de missions visant à lancer ces missiles sur leurs cibles. Il s'agit donc d'un entraînement complexe que suivent les soldats russes, et tout cela dans le but de se préparer à frapper l'Ukraine avec des armes nucléaires. Il s'agit d'armes nucléaires tactiques. Comme je l'ai dit, cela signifie qu'elles sont plus petites et moins puissantes que les armes nucléaires stratégiques. Elles sont conçues pour être utilisées sur un champ de bataille, dans une situation tactique, et non pour raser des villes entières comme c'est le cas avec les armes stratégiques. Néanmoins, nous pouvons être sûrs que les Européens sont profondément ébranlés par cet événement. Ce n'est que le dernier signe en date de la détermination de la Russie à conquérir l'Ukraine, et cela fait suite à plusieurs autres menaces de déployer ses armes. L'Ukraine se trouve, bien entendu, en Europe de l'Est. Elle est limitrophe des pays de l'Union européenne. L'agression russe a donc ébranlé et changé la perspective de nombreux Européens. Il y a quelques jours, le ministre polonais des Affaires étrangères a averti ses alliés européens que l'agressivité de la Russie, ainsi que les doutes entourant la fiabilité de l'Amérique, signifient que l'Europe doit changer plus profondément qu'elle ne l'a déjà fait. Ce ministre des Affaires étrangères a préparé un document de 5 pages qu'il a remis aux autres dirigeants de l'UE, soulignant que les nations européennes doivent être plus puissantes et plus unifiées sur le plan militaire. C'est donc un aspect essentiel de la guerre menée par la Russie depuis le début. Cette guerre terrifie les Européens et en particulier les Européens de l'Est, et cette peur entraîne une militarisation accrue et une alliance européenne plus étroitement unifiée.
Je pense que c'est un point important. Je ne sais pas si c'est dans le document dont vous parlez, mais j'ai vu un passage où le ministre polonais des Affaires étrangères a dit à la Hongrie « Vous devriez quitter l'UE et rejoindre la Russie ». Il dit essentiellement que l'Europe désire une armée commune. Elle cherche à s'unifier. C'est urgent qu'elle fasse beaucoup plus ensemble. Mais vous vous y opposez, alors quittez l'Union.
C'est un point important. La Hongrie s'est décidément rangée du côté russe. Pas toujours, car elle oscille entre l'Europe et la Russie. Et Orban est un proche allié de Poutine. Vous comprenez donc pourquoi un pays comme la Pologne dirait « Écoutez, si vous êtes le maillon faible, et si vous nous empêchez d'être aussi unis que nous le souhaitons, vous devez quitter l'Union ».
C'est aussi un excellent exemple de la façon dont ces évolutions poussent l'Europe dans la direction prophétisée. Il y a un grand nombre de prévisions très précises. En général, l'Europe deviendra plus puissante, c'est sûr, mais la Bible contient beaucoup plus de détails spécifiques. L'une de ces précisions est que l'Union européenne passera de 23 à 10 nations. Ce n'est qu'un détail, et pas forcément le plus important. La Hongrie pourrait bien faire partie de ces 10 nations. Ou peut-être pas. Mais le fait que la Pologne dise « Écoutez, nous avons besoin d'une Union européenne plus petite afin de répondre à l'agressivité russe », c'est une réalisation très spécifique de ce que nous attendons. Et il y a toute une série d'autres détails aussi.
C'est exact. Et depuis le tout début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2014, le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, a souligné la réaction de l'Europe face à la belligérance russe et à ses menaces nucléaires. Monsieur Fleury a dit qu'il souligne cela en raison de la prophétie biblique. Il a écrit un article en 2014 qui dit, je cite, « Nous prophétisons depuis environ 70 ans que l'Europe de l'Est deviendrait une partie vitale d'une nouvelle superpuissance européenne, une résurrection du Saint-Empire romain. La peur que vous voyez en Europe à cause des événements en Crimée amènera 10 dirigeants européens à s'unir de façon soudaine et spectaculaire et en accord précis avec la description biblique de cet empire européen. La nouvelle peur de l'Europe face à la Russie jouera un rôle majeur en accélérant l'accomplissement de cette prophétie. » Fin de citation. Donc alors que les soldats russes s'entraînent activement à frapper l'Ukraine avec des armes nucléaires, il est vital pour nous de continuer à surveiller la réaction de l'Europe. De nombreux Européens ont été ébranlés et nous devons comprendre que cette peur est en train de transformer l'Europe.
Et quelle plus grande source de peur que les armes nucléaires? Je crois que j'ai vu, il y a quelques mois, des articles où on écrivait qu'il y a encore des malformations congénitales chez les moutons norvégiens à cause de Tchernobyl, qui était bien sûr un accident nucléaire en Ukraine. Alors, l'utilisation d'armes nucléaires, ou s'il y a des retombées nucléaires en Ukraine, cela pourrait toucher l'Europe tout entière. Si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine, cela se propagera. Et bien sûr, les retombées de ces petites armes nucléaires ne seront pas nécessairement aussi étendues que lorsqu'un réacteur explose dans une centrale nucléaire. Il y a beaucoup de variables qu'il faut tenir en compte. Toutes les explosions nucléaires ne sont pas identiques. Mais il est quand même évident comment cela pourrait répandre la peur. Les groupes de réflexion qui étudient les armes nucléaires sont particulièrement préoccupés par ces armes nucléaires tactiques, car elles semblent plus faciles à utiliser. Par exemple, si vous utilisez une arme nucléaire pour anéantir une ville entière, c'est bien plus grave, alors qu'il n'est pas aussi grave d'utiliser une arme nucléaire pour anéantir 100 chars d'assaut ou quelque chose comme ça. On craint donc que l'escalade ne soit facile. Et ces experts, qu'ils aient raison ou non, ne manqueront pas d'en parler dans les capitales européennes. Ils ne manqueront pas de dire qu'il faut vraiment réagir. Quant aux missiles Iskander, je pense qu'il s'agit de missiles particulièrement effrayants, car ils sont des missiles balistiques à portée intermédiaire qui peuvent porter une ogive nucléaire. Ces missiles ne peuvent en pas frapper n'importe où sur Terre. Ce sont les missiles balistiques stratégiques qui volent au bord de l'espace. Ils sont assez impressionnants. Pourtant, ils mettent un certain temps pour atteindre leur cible. Les missiles comme l'Iskander, par exemple, atteignent leur cible beaucoup plus rapidement, ce qui signifie qu'il y a moins de temps pour prendre une décision, par exemple s'il faut riposter. C'est pourquoi je pense que ces missiles tactiques sont particulièrement effrayants. Alors, la Russie évoque certaines des armes qui inquiètent le plus les experts en armement. l'Europe réagit à la guerre en Ukraine depuis 2 ans. Des modifications importantes ont déjà été apportées. Et il est déjà évident comment ce sujet pourrait entraîner d'autres changements subis au cours des semaines et des mois à venir. Merci beaucoup, Jérémy. Vous pouvez lire notre article en ligne « La guerre de la Russie contre l'Ukraine refaçonne l'Europe ». Et vous trouverez d'autres liens vers nos articles dans la description. Si vous venez de découvrir notre émission, merci d'avoir rejoint notre premier résumé de la semaine en vidéo et bienvenue à Trumpet World. Nous serions ravis si vous êtes en mesure d'approfondir votre apprentissage avec ces contenus. Lorsque nous disons que la Bible dit telle ou telle chose, que la Bible prophétise ceci ou cela, nous ne voulons pas que vous nous croyiez sur parole. Et nous savons que dans ce format, surtout le vendredi où nous abordons tous ces articles rapidement, il n'y a pas le temps de tout explorer à fond, surtout si vous venez de nous rejoindre. Mais nous ne voulons pas que vous nous croyiez sur parole. Vous devez tout prouver par vous-même. Nous avons abordé l'avenir de l'humanité. Nous avons parlé de guerre nucléaire. Y a-t-il un espoir pour l'humanité? En fin de compte, ce que nous vous disons, c'est que toutes les actualités de cette semaine ont un rapport direct avec la Bible. Ces évolutions impliquent souvent des armes terrifiantes et épouvantables, mais en même temps, elles prouvent que Dieu règne dans le royaume de l'homme. Elles prouvent que, en fin de compte, c'est Dieu qui contrôle tous ces événements et qu'ils se déroulent tous selon un plan. Et ce plan ne se termine pas par l'anéantissement de l'homme. En fin de compte, le monde en viendra à connaître Dieu, à comprendre les causes de tous les fléaux qui nous entourent. Et ce sont le gouvernement, la vérité et la loi de Dieu qui remédiera à ces fléaux et amènera le paradis sur terre. Voilà où tout cela nous mène en fin de compte. Et lorsque vous considérez toutes ces actualités de la semaine selon cette perspective, en comprenant que tout cela fait partie du plan de Dieu et de ses prophéties, il s'agit en fait d'une énorme source d'espoir. C'est pourquoi nous voulons vraiment que vous profitiez de ces contenus pour les étudier et les prouver par vous-même. C'est trop important pour que vous nous croyiez sur parole. Nous laisserons donc tous ces articles dans nos notes d'émission pour que vous puissiez les consulter. Et comme je l'ai dit, si vous venez de nous découvrir et souhaitez commencer quelque part, je vous conseille à lire ce livre, « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Nous n'en avons parlé que brièvement dans cette émission, mais c'est un ouvrage fondamental. C'est la clé principale pour comprendre ce que dit la Bible par rapport à notre ère moderne et pour comprendre toutes ces actualités modernes à la lumière de la prophétie biblique. Si vous ne l'avez pas encore lu, rendez-vous sur notre site web latrompette.fr. Vous pouvez télécharger la version numérique, ou mieux encore, obtenir votre propre exemplaire gratuit et consulter ce livre à côté de votre Bible. Si vous avez des questions, des retours concernant cette émission et notre nouveau format, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail à lettre à latrompette.fr. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci à Georges Haddad et Isaac Lorenz pour la production. Nous serons de retour mercredi avec un nouvel épisode. D'ici là, ne cessez pas d'observer votre monde.